Théologie sans une bibliologie, comment discerner la volonté de Dieu pour toi? Des centaines de livres et d'articles dans des revues et sur l'internet ont des titres tels que « Comment connaître le plan de Dieu pour votre vie ?» Des questions à se poser quand la volonté de Dieu n'est pas manifeste, 5 moyens pour trouver le chemin que Dieu t'a destiné, comment connaître la volonté de Dieu au quotidien, ou discerner la volonté de Dieu pour toi. Il est clair que beaucoup de lecteurs se posent ce genre de questions. On veut plaire à Dieu. On veut connaître ce qu'il nous réserve. On est confronté à des choix difficiles dans la vie, et l'on ne veut pas faire fausse route. Comment peut-on effectivement savoir ce qu'il faut faire? Que veut dire la volonté de Dieu? Il est important de reconnaître que, dans la Bible, il y a deux façons de parler de la volonté de Dieu. Certains passages parlent de la volonté révélée de Dieu. Ils se réfèrent à ce que Dieu veut que nous fassions ou que nous soyons. Ils parlent de ce que Dieu attend de nous, ce qu'il exige. Prenons des exemples, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, 1 Thessaloniciens 4:3-5, soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, 1 Pierre 2:1315, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5:16-18, il use de patience envers vous, car il ne veut pas qu'un seul périsse, au contraire il veut que tout arrive à la repentance, 2 Pierre 3:9, on t'a fait connaître, ô accent circonflexe homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu, Michée 6:8, un regard autour de nous, et même sur nos propres vies, révèle que les hommes n'accomplissent souvent pas la volonté de Dieu dans ce sens. Mais sa parole est remplie de conseils pour nous faire savoir ce qu'il veut que nous fassions. Dieu a révélé sa volonté pour tout être humain dans la Sainte Bible. Il a déjà fourni toutes les instructions dont nous avons besoin pour savoir vivre dans la sainteté afin de plaire à notre Créateur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, 2 Pierre 1:3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne, 2 Timothée 3:16, 17, FC. Non seulement nous devons chercher à apprendre sa volonté, Éphésiens 5:17, mais nous devons nous y soumettre, Colossiens 4:12. Cependant, d'autres passages bibliques nous parlent de la volonté cachée de Dieu. Il ne s'agit pas là de choses que Dieu attend de nous, mais de choses que Dieu a l'intention de faire ou ne pas faire, de choses qu'il permettra ou ne permettra pas d'arriver. Il s'agit de ses desseins, qu'il n'a généralement pas fait connaître aux hommes et que les hommes n'ont ni le devoir ni la possibilité de découvrir. Divers passages montrent que la volonté de Dieu dans ce sens était cachée même aux hommes inspirés. Par exemple, Paul demanda aux chrétiens à Rome de prier pour lui en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos, Romains 15:32. Lorsque Paul quittait les frères à Corinthe, il prit congé d'eux, en disant, « Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut », Actes 18:21. En cela, il manifestait l'attitude recommandée en Jacques 4:13-16, « À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que d'être orgueilleux de la sorte, il est, effectivement, présomptueux de notre part de prétendre connaître le plan de Dieu pour notre vie. Pourrions-nous être sûrs de son plan quand nous ne savons même pas si nous verrons demain? La volonté de Dieu dans ce deuxième sens désigne non seulement son contrôle des circonstances de la vie de chacun de nous, les bénédictions qu'il a l'intention de nous accorder, les épreuves qu'il nous enverra pour tester notre foi et les occasions pour servir qu'il veut nous donner, mais aussi ses décisions concernant le sort de telle ou telle nation, Actes 17:26, et le jour où il jugera le monde entier, Actes 17:31. Comme Jésus dit aux apôtres, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, Actes 1:7. Nous pouvons, en certaines choses, influencer la volonté de Dieu par nos supplications, Mais nous ne connaissons pas la volonté cachée de Dieu jusqu'au moment où nous pourrions regarder en arrière et comprendre ce qu'il a fait. Quand nous voyons ce qui a manifestement été sa volonté, nous pouvons l'accepter, reconnaître sa sagesse et sa grâce, et puis chercher à le glorifier et obéir à sa volonté révélée dans les circonstances qu'il a choisies pour nous. Ajoutons qu'entre la volonté révélée de Dieu et la volonté cachée de Dieu, il y a des domaines où Dieu nous laisse la liberté de choisir ce que nous voulons. Par exemple, en 1 Corinthiens 7, où l'apôtre Paul donne des conseils sur le mariage, il ne suggère nulle part que le chrétien doit discerner la volonté de Dieu afin de connaître la bonne personne, celle que Dieu a choisie. Il dit plutôt le contraire, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement, que ce soit dans le Seigneur, 1 Corinthiens 7.39, il y a une ligne de conduite à suivre en faisant le choix, que ce soit dans le Seigneur, mais le choix se fait par la personne concernée. Il y a beaucoup de décisions de ce genre dans la vie, où plusieurs options potentielles seraient parfaitement acceptables et ne présenteraient aucun conflit avec la parole de Dieu. Nous avons le devoir d'apprendre la volonté révélée de Dieu, mais ceux qui veulent à tout prix connaître sa volonté cachée courent le risque de se rendre coupables et de provoquer sa colère. Les efforts pour connaître le plan de Dieu, les païens estiment qu'il est absolument nécessaire de deviner la volonté des esprits et l'influence des puissances spirituelles impersonnelles dans leur vie. Tandis que la supplication par la prière a un effet sur l'activité de Dieu dans le monde, la divination suggère un désir de forcer les choses, une impatience pour connaître l'avenir et une arrogance qui croit pouvoir contourner la souveraineté de Dieu. La voie chrétienne est une relation personnelle avec Dieu, la voie païenne est souvent manipulatrice. Les païens emploient divers moyens pour essayer de prédire l'avenir. Ils interprètent des augures, le vol des oiseaux, la naissance d'un animal déformé, la façon de tomber des animaux égorgés pour l'offrande en sacrifice, etc. Ils pratiquent l'astrologie et consultent l'horoscope, ils emploient les cartes de tarot, ils interrogent les morts. Dieu condamna fermement de telles pratiques dans plusieurs textes, tels que Deutéronome 18.10-12, qu'on ne trouve chez toi, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, une autre méthode répandue pour prédire l'avenir est l'interprétation des songes. Les rois d'autrefois, tels que le pharaon en Égypte ou le roi babylonien, avaient toujours dans leur cour royale des magiciens ou des sages pour expliquer les rêves. Il est vrai que dans les pages de la Bible on voit de nombreuses situations où Dieu communiquait au moyen des songes, Matthieu 1.20-27.19, Actes 16.8-10, 18.9-11, Nombre 12.6. Il faut cependant retenir que beaucoup de rêves ne viennent pas de Dieu et leurs messages peuvent être contraires à sa volonté. Les faux prophètes du temps de Jérémie recevaient des visions de leur cœur et prophétisaient sans avoir entendu la voix de l'Éternel, Jérémie 23.16. Les songes peuvent être mensongers, Zacharie 10.2. De faux prophètes peuvent proclamer un message contre la volonté de Dieu et pourtant prédire des signes qui se réalisent, Deutéronome 13.1-3. La validité des faiseurs de rêves n'est pas vérifiée simplement par le fait que le rêve se réalise. De puissants êtres spirituels qui s'opposent à Dieu peuvent employer des rêves pour égarer les hommes. Un rêve doit être évalué selon la révélation de la parole de Dieu. D'ailleurs, la plupart des rêves ne sont que la réflexion des soucis que l'on fait pendant le jour, Ecclésiaste 5.2. Ce ne sont pas seulement les païens qui cherchent des conseils spirituels pour la vie qui ne se trouvent pas dans la Bible. Ceux qui croient en Christ veulent souvent, eux aussi, des directives personnalisées de la part de Dieu, croyant qu'ils ont besoin de discerner sa volonté pour eux, plutôt que d'écouter ses instructions pour tous les hommes. Certains pensent percevoir une petite voix intérieure, qu'ils prennent pour la voix de Dieu. Peut-être que les premiers messages reçus de cette façon étaient rassurants, édifiants et apparemment en harmonie avec la parole écrite de Dieu. Mais que faire si la voix dans son cœur ou à son oreille offre un message qui s'écarte de l'enseignement de la Bible ? Si l'on a appris à associer au Seigneur la petite voix ou le sentiment dans le cœur, si l'on prend ses idées pour des messages personnels de la part de Dieu, comment ne pourrait-on pas les élever en importance au-dessus de la Bible, ce texte vieux de 2000 ans qui s'adressa aux autres ? Il est dangereux de se laisser guider d'une telle manière. Considérez cet exemple dans un article par Daniel Colanda. Récemment, un homme vint me trouver, il voulait recevoir un conseil de ma part concernant une situation très difficile. Cet homme, qui était marié et père de famille, avait décidé de quitter son épouse pour une autre femme. Il ressentait que cette autre femme était son âme sœur et il croyait avoir entendu Dieu lui dire de divorcer pour épouser cette autre femme. Lorsqu'il me demanda conseil par rapport à cette situation, je sus immédiatement ce qu'était la volonté de Dieu. Je lui dis sans équivoque que ce n'était absolument pas la volonté de Dieu pour lui de quitter sa femme pour une autre femme et que Dieu ne lui avait certainement jamais dit de faire cela. Maintenant, vous vous demandez sûrement, comment le saviez-vous? Aviez-vous entendu une voix audible venant du ciel ou reçu une parole prophétique? Non, je n'avais même pas besoin de prier pour cela. Je savais avec certitude qu'il ne s'agissait pas de la volonté de Dieu pour cet homme de quitter sa femme et de commettre un adultère, Matthieu 5.32. 19.9, tout simplement en raison de ce que Dieu nous a déjà révélé dans sa parole. Dieu a clairement révélé dans sa parole sa volonté générale valable pour chacun. Si seulement nous l'utilisions comme notre boussole et comme notre guide, en réalité, aucun passage de la Bible ne nous recommande de chercher, découvrir ou discerner le plan de Dieu. Le Seigneur peut très bien avoir un plan qui vous concerne. Peut-être qu'il a l'intention de vous bénir, de vous corriger ou de vous utiliser pour servir ou influencer une autre personne. Mais il est fort probable que vous ne le saurez pas jusqu'après les faits. Dieu avait un plan quand les frères de Joseph le vendirent comme esclave, et même quand il fut injustement emprisonné sur la fausse accusation de la femme de son maître égyptien, Genèse 37, 39. C'était de nombreuses années plus tard que Joseph put comprendre et expliquer à ses frères, « Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Genèse 45.5, « Nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous n'avons pas besoin de le connaître, car nous connaissons celui qui tient l'avenir dans sa main. Et nous savons qu'il nous aime. Faisons-lui donc confiance. Comment prendre de bonnes décisions? Admettons que nous ne connaissions pas l'avenir, que nous ne devions pas employer les méthodes de divination, et que nous devions parfois choisir parmi plusieurs options qui semblent acceptables du point de vue de la moralité enseignée dans la Bible. Comment pourrions-nous décider dans ces circonstances? Par exemple, faut-il accepter tel emploi ou tel autre? Faut-il épouser cette personne ou telle autre? Devrais-je déménager dans telle ville? Quelle carrière poursuivre? Ou bien, devrais-je rester à la maison pour être mère à plein temps pour mes enfants? Combien d'argent faut-il donner à la charité? Quel logement devrais-je louer ou acheter? De quelle assemblée locale de l'Église du Christ devrais-je être membre? Quand faut-il semer mon champ, ou quelle culture dois-je choisir cette année? Nous sommes libres de choisir n'importe quelle option, pourvu qu'elle ne soit ni illégale, ni immorale, ni en conflit avec un enseignement biblique. Mais même dans ce cas-là, toutes les options ne se valent pas forcément du point de vue de la sagesse ou du potentiel pour glorifier Dieu. Nous pouvons quand même sentir le besoin d'aide pour bien choisir. Voici donc quelques suggestions, examinez vos mobiles. Pourquoi pensez-vous choisir telle option? Si vous choisissez tel homme pour mari parce qu'il a de l'argent, alors que sa moralité est douteuse, ou telle femme pour épouse à cause de sa beauté, alors qu'elle n'est pas zélée pour le Seigneur, votre décision risque de ne pas plaire à Dieu et aura sûrement des conséquences négatives. Il y a des considérations au-delà de la légalité d'un acte. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Virgule, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas, 1 Corinthiens 6.12. 10.23, soyez ouverts aux bons conseils. En 1 Samuel 25, David avait pris la résolution de se venger sur un homme qui lui avait rendu le mal pour le bien. Mais la femme de cet homme a trouvé David avant qu'il n'accomplisse son intention violente. Après l'avoir écouté, David dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main, 1 Samuel 25.32, 33, ajoutons que les conseils les plus utiles viendront de la part de chrétiens fidèles qui s'appuient sur la parole de Dieu et non sur la sagesse du monde. Lisez les Écritures. B. Graham a suggéré des questions à se poser, la Bible contient-elle des instructions qui se rapportent directement à votre situation? Enseigne-t-elle un principe qui s'applique à votre cas? Quelqu'un dans la Bible a-t-il fait face à un dilemme pareil au vôtre, et si oui, qu'est-ce qu'il a fait? Nous pouvons tirer des leçons même des mauvaises décisions que ces personnes ont prises, prier, jeûner et demander à d'autres de prier pour vous. Jacques 1.5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Les chrétiens demandent souvent aux autres, en se référant à une situation dans la vie où ils ont plus d'une option, priez pour que je connaisse la volonté de Dieu, mais Jacques dit de demander de la sagesse. Peut-être que Dieu n'a pas de volonté, c'est-à-dire pas de préférence en ce qui concerne la décision qui vous trouble. Par contre, il s'intéresse à votre mobile et à votre manière de vivre avec votre choix. Que vous deveniez médecin ou mécanicien ne lui importe peut-être pas beaucoup, mais il se soucie de la manière dont vous exercez votre profession, avec compassion et intégrité. Demandez à Dieu de vous aider à choisir ce qui pourra vous rendre plus fort spirituellement, vous permettre de mieux servir les autres, etc. Vous pouvez lui demander de fermer des portes, il a les moyens d'éliminer pour vous des options qui vous semblent valables, mais qui seraient, en fait, nuisibles à votre bien-être physique ou spirituel. Rappelez-vous que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, Proverbe 14.12. Quand vous aurez prié, faites de votre mieux pour ne plus être angoissé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4.6, 7, même si, par ignorance, vous avez pris une décision qui vous a mis dans une situation qui vous est désagréable, comptez sur Dieu, qui peut se servir de n'importe quelle circonstance pour la gloire de son nom, et persévérer à faire ce que la parole de Dieu exige de vous. Dernière pensée, nous avons tout besoin de connaître la volonté révélée de Dieu. Rien, en fait, n'est plus important, car notre bonheur éternel en dépend. Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, Matthieu 7.21. » Pour ce qui est de la volonté cachée de Dieu, ne soyons pas angoissés à ce sujet. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, Deutéronome 29.29. Le maître des circonstances, le souverain de l'univers, est aussi notre Père qui nous aime. Il est toujours à l'œuvre, que nous le voyons ou pas, et il cherche toujours notre bien. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8.28. Bien qu'il nous permette parfois de passer par des moments difficiles, voire douloureux, ayons l'attitude qu'Élie exprima au jeune Samuel en 1 Samuel 3.18, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. S'il nous dit quelque chose dans sa parole, nous pouvons être sûrs de cette vérité, nous pouvons avoir une confiance absolue à ce qu'il dit. Les chrétiens reconnaissent la Bible comme le livre où Dieu nous parle. Mais qu'est-ce qui nous pousse à croire que la Bible est effectivement la parole de Dieu lui-même? Considérons plusieurs raisons pour cette confiance dans la Bible elle-même prétend être inspirée de Dieu. En disant que la Bible vient de Dieu et nous communique sa volonté, nous n'allons pas au-delà de ce que la Bible dit à son propre sujet. Tout au long de ce livre, on trouve des passages qui affirment son origine divine. Voici quelques exemples, l'auteur des 5 premiers livres de la Bible fut Moïse. Selon Exode chapitre 4, Dieu appela Moïse à être son porte-parole auprès des Israélites et des Égyptiens. Moïse ne voulait pas accepter cette charge, mais Dieu l'a assuré qu'il serait lui-même avec Moïse. Moïse dit au Seigneur, « Ce n'est pas possible, Seigneur, je ne suis pas un orateur. Je ne l'ai jamais été, et je ne le suis pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Le Seigneur lui rétorqua, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien, maintenant, va. Je serai avec toi quand tu parleras, je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Exode 4.10 au 12, FC. Les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, répètent 420 fois que les paroles que Moïse écrivait étaient celles de Dieu. Un autre grand prophète de l'Ancien Testament s'appelait Ésaïe. Ses messages au peuple s'introduisent souvent par l'expression « Ainsi parle l'Éternel ». C'était la phrase utilisée traditionnellement par le porte-parole d'un roi avant de donner un message quelconque de sa part. Les mots « Ainsi parle l'Éternel » se trouvent 80 fois dans le livre du prophète Ésaïe. Comme Moïse, le prophète Jérémie se sentait trop timide pour accepter la charge de messager de Dieu. Mais en Jérémie 1.9, il écrivit, « Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, ce n'est pas seulement les auteurs de l'Ancien Testament eux-mêmes qui disaient qu'ils étaient inspirés. » Jésus et ses apôtres reconnaissaient que les écrits de ses prophètes constituaient non pas la parole des hommes, mais celle de Dieu, Matthieu 5.17, 18, 22.31, 32, 2 Timothée 3.15 au 17. Mais Jésus promit que ses apôtres, aussi, seraient guidés par l'Esprit de Dieu dans ce qu'ils diraient. Il leur dit en Matthieu 10.19, 20, « Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Il dit encore à ses apôtres en Jean 16.13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, Comme les autres apôtres du Seigneur, l'apôtre Paul prétendait parler pour Dieu, il dit en 1 Corinthiens 14.37, « Si quelqu'un croit à être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur », l'apôtre Pierre a effectivement reconnu les écrits de Paul comme inspirés de Dieu. En 2 Pierre 3.15, 16, il les a classés ensemble avec les autres écritures, c'est-à-dire les écrits reconnus comme étant la parole de Dieu. Dans cette même épître, Pierre explique l'idée de l'inspiration de la manière suivante, « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu », 2 Pierre 1.21. En tenant compte des différents passages de la Bible, il est évident que certaines parties ont été dictées par Dieu à son prophète, mot à mot. Pour d'autres parties, il a plutôt guidé le prophète ou l'auteur pour que le message contienne uniquement les idées que Dieu voulait, sans l'introduction d'une erreur quelconque, mais tout en permettant à l'homme de s'exprimer selon sa personnalité et sa culture. Dans tous les cas, le Saint-Esprit conduisait ces hommes et garantissait qu'ils parlent véritablement de la part de Dieu. Évidemment, quelqu'un peut prétendre être un prophète de Dieu quand en fait Dieu ne lui a pas parlé. C'est ce qui se passe malheureusement très souvent. Y a-t-il des raisons pour croire que la Bible est réellement ce qu'elle prétend être? Oui, il y en a beaucoup. Voyons en brièvement quelques-uns. Des preuves de son inspiration, l'indestructibilité de la Bible. Jésus dit en Matthieu 24.35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » L'apôtre Pierre parle dans le même sens, « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, 1 Pierre 1.24, 25. Si la Bible existe encore de nos jours, c'est parce que Dieu a veillé sur sa parole pour la protéger et la préserver. Les parties les plus anciennes de la Bible remontent à plus de 3500 ans. D'autres livres de la même époque ont disparu depuis longtemps, mais la Bible a survécu malgré de nombreux efforts de la part des non-croyants de la détruire. Par exemple, l'empereur romain Dioclétien, dans ses efforts de détruire le christianisme, ordonna la peine de mort pour toute personne possédant une Bible. Même les membres de la famille du condamné devaient être exécutés s'ils ne dénonçaient pas celui dès lors qui gardait une Bible. 2 ans après, l'empereur se vantait, « J'ai complètement exterminé tous les écrits chrétiens. » Cependant, plus tard, quand un autre empereur, nommé Constantin, promit une récompense importante pour tout exemplaire de la Bible qu'on lui apporterait, plus de 50 lui furent remis dans les 24 heures. De nos jours, la Bible est le livre le plus lu au monde. Voltaire, le célèbre philosophe, se moquait de la Bible et prédit que le christianisme disparaîtrait en moins de 100 ans. Voltaire est mort depuis plus de 200 ans, la Bible est toujours le best-seller de tous les temps, et aujourd'hui, la maison dans laquelle Voltaire a vécu est devenue un dépôt de la société biblique. De ce lieu sont envoyés dans le monde entier des milliers et des milliers de Bibles. Que ce soit l'Empire romain, le communisme, les autres religions, ou les philosophes modernes, aucune force n'a réussi à détruire la Bible. La raison en est qu'elle vient de Dieu. L'unité de la Bible est en fait un recueil de plusieurs livres, 66 en tout. Ces livres furent écrits par 40 différents auteurs, utilisant 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Ces hommes venaient de tous les milieux, des rois, des bergers, des prophètes, des prêtres, un collecteur d'impôts, un médecin, des pêcheurs, un homme militaire, des cultivateurs, etc. Évidemment, quelques-uns étaient très instruits, d'autres ne l'étaient pas. Certaines parties furent écrites dans un désert, d'autres parties dans des palais royaux, et d'autres parties en prison. L'auteur des premiers livres de la Bible vécut 1600 ans avant l'auteur des derniers livres. Et pourtant, non seulement la Bible ne se contredit pas, mais elle développe un seul thème, elle raconte une seule grande histoire, elle fait un ensemble harmonieux, elle présente une unité parfaite. Comment une telle chose pourrait-elle se produire? Cela ne peut s'expliquer que par l'intervention de Dieu. C'est lui qui a guidé tous ces hommes pour qu'ils écrivent son message à l'humanité. L'exactitude scientifique de la Bible n'est pas un livre de science, et pourtant, elle est remarquable par sa conformité au principe de la meilleure science de nos jours. D'une part, elle ne contient pas d'erreurs scientifiques, et d'autre part, elle révèle des principes scientifiques qui n'ont été découverts que récemment par la science moderne. Prenons, par exemple, le domaine de la médecine. Plusieurs des lois dans les livres de Moïse suivent des principes qui étaient complètement inconnus des autres peuples de son époque, y compris les Égyptiens parmi lesquels Moïse avait grandi et dont la civilisation était la plus avancée au monde à cette époque. Deutéronome 14.21 dit qu'un animal mort d'une mort naturelle ne devait pas être mangé. Or, la médecine moderne a démontré que ces animaux peuvent être porteurs de microbes qui provoquent des maladies. Les dangers de l'eau polluée n'ont été découverts que très récemment. La typhoïde et le choléra se répandent surtout par ce moyen. Mais Dieu avait dit à Moïse que le peuple ne devait boire l'eau dans laquelle on avait trouvé un cadavre. Seule l'eau courante et les grandes étendues devaient être considérées comme étant sans danger, Lévitique 11.36. La quarantaine, la pratique d'isoler des personnes ayant certaines maladies, est une autre de ces lois remarquables. Elle est ordonnée en Lévitique 13 et 14. Au XIVe siècle, la peste bubonique, une maladie très mortelle, faisait des victimes partout en Europe. 60 millions de personnes moururent de cette même maladie au XIVe siècle. En fait, les médecins eux-mêmes aidaient à répandre la maladie par manque d'hygiène. Et bien sûr, ils n'arrivaient pas à arrêter le fléau. Finalement, ils se tournèrent vers l'Église qui trouva dans l'Ancien Testament le principe de la quarantaine, qui limite strictement le contact entre les malades et les personnes en bonne santé. Dans quelques mois seulement, la peste fut arrêtée. Nous savons aujourd'hui que plusieurs maladies sont transmises par les excréments humains. Moïse donna des instructions pour que les excréments soient enterrés et là non abandonnés à la surface du sol, où les mouches pourraient se poser dessus et transmettre ensuite la maladie aux hommes, Deutéronome 23.13. Comment expliquer la sagesse de ces lois bibliques, surtout quand on considère les pratiques des médecins égyptiens au temps de Moïse? Ils recommandaient, par exemple, d'appliquer aux petites blessures une pommade faite de crottes d'âne mêlées de sang de verre. Étant donné que l'excrément est rempli de spores de tétanos, ce remède provoquait de nombreuses morts dues à l'infection. Comment Moïse a-t-il pu incorporer dans la loi israélite des principes que les hommes scientifiques n'ont découverts que 3500 ans plus tard et éviter d'inclure les idées erronées de son époque? Est-ce le hasard? Non, c'est l'inspiration. C'est Dieu qui était la source de ces lois bibliques. Les prophéties de la Bible comme Jacques 4.14 le dit, l'homme ne sait même pas ce qui arrivera demain. Dieu, par contre, voit l'avenir mieux que nous ne voyons le passé. Lui seul peut savoir ce que le futur cache de nos yeux. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté, Ésaïe 46.9, 10. Prophétie sur des nations. La Bible contient de nombreuses prédictions qui n'auraient jamais pu être faites par des hommes. Longtemps avant les événements en question, Dieu a décrit le destin de divers pays et peuples. Prenons un seul exemple parmi des dizaines. Ninive, située au bord du fleuve Tigre, était, comme la célèbre Babylone, une grande ville entourée d'une grande muraille. On estime que la population totale était de plus de 600 000 habitants, et la ville existait depuis plus de 17 siècles. Quand cette ville était encore très puissante, le prophète Nahum prophétisa qu'elle tomberait et qu'un déluge aiderait les ennemis à s'en emparer, Nahum 1.8. 2.6. Sophonie a ajouté que la ville serait abandonnée et deviendrait tout simplement un endroit pour faire paître des moutons. Ninive a été prise par ses ennemis en 612 avenue J, C. Quand le Tigre a débordé et cassé une partie de la muraille, permettant à l'armée des Mèdes, des Scythes et des Babyloniens d'y entrer. Environ 200 ans plus tard, l'armée grecque passait par là. Elle ne trouva qu'un monceau de roc là où la grande ville s'était trouvée. Le lieu est toujours inhabité, mais il est bon pour une chose, on y fait paître des moutons. En fait, son nom moderne en arabe signifie « monceau de beaucoup de moutons ». Prophétie de Jésus. Il y a beaucoup d'autres prédictions dans la Bible concernant des villes et des pays, prédictions qui se sont accomplies comme celle-ci. Mais voyons une autre sorte de prédiction, celle qui concerne le Messie ou Sauveur que Dieu avait promis envoyer dans le monde. Beaucoup de détails concernant la vie du Christ ont été annoncés des siècles avant sa naissance. Par exemple, le prophète Michée avait écrit de la part de Dieu, « Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, Michée 5.1. Selon Matthieu 2.1 ou 6, les Juifs du 1er siècle comprenaient clairement que ce passage parlait du lieu de naissance du Christ. En Jérémie 23.5, 6, comme dans plusieurs autres passages de l'Ancien Testament, il est dit que le Christ serait un descendant du roi David, voire Matthieu 1.1. Un seul chapitre en Ésaïe, 53, contient plus d'une dizaine de prophéties concernant ce serviteur de l'Éternel, il serait méprisé des hommes, V3, Mat 27.39o. Il serait habitué à la souffrance, V3, Hébreux 2.17. 1 Pierre 2.21. Il serait rejeté par son peuple, V3, Jean 1.10, 11. Il apporterait la guérison, V4, Mat 8.16, 17. Il serait sans péché, V9. 1 Pierre 2.22. Il serait châtié pour nos péchés, V5. 1 Cor 15.3. 1 Pierre 2.24, 25. il serait mis au nombre des malfaiteurs, V12, Luc 22.37, 23.32. Il intercéderait pour des coupables, V12, Luc 23.34. Son tombeau serait avec le riche, V9, Matt 27.57 au 60. Il serait ressuscité, V10, Luc 24.6 au 8. Il serait honoré, V12, Phil 2.9 au 11. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été prédites concernant Jésus, mais vous voyez déjà combien ces prophéties sont étonnantes. Dieu a fait dans la Bible ce qu'un homme n'aurait jamais pu faire, il a donné des centaines de détails concernant la vie d'un individu des siècles avant la naissance de ce dernier. Que ce soit des prophéties concernant telle ou telle nation ou bien concernant Jésus-Christ, ce sont des preuves certaines que la Bible n'aurait jamais pu être l'invention de simples hommes. Elle vient de Dieu qui sait tout et qui garde sa parole. La Bible est elle-même la preuve la plus convaincante de son inspiration. Jésus dit en Jean 7.17, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu est vivante et efficace, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, Hébreux 4.12. À travers les paroles de ce livre, l'Esprit de Dieu convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement, Jean 16.8. Oui, un examen objectif de la Bible nous met en face de beaucoup de choses que nous ne pourrions pas expliquer s'il s'agissait d'un livre écrit par des hommes ordinaires qui vécurent il y a des milliers d'années. L'indestructibilité, l'unité, l'exactitude scientifique, et les prophéties de la Bible nous assurent qu'elle est ce qu'elle prétend être, la parole de Dieu. Mais en plus de tout cela, la Bible parle à notre cœur. Malgré les différences culturelles entre nous et les auteurs de la Bible, ce livre nous parle. Il nous accuse, et nous reconnaissons que l'accusation est juste. Il nous offre de l'espoir, et nous savons que c'est ce dont nous avons le plus besoin. Il nous montre comment il faut vivre, et nous comprenons que c'est le seul chemin possible. Et cela aussi nous confirme que c'est Dieu qui en est le vrai auteur. Seul Dieu, le Créateur de tout homme, serait capable de produire un livre qui puisse satisfaire aux besoins de chacun de nous. Que la Bible soit donc l'objet de nos études tous les jours et notre unique guide dans la vie.